Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Festival, la déclinaison cannoise du Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et pour ce 11e numéro, on est au studio avec le collègue et néanmoins ami Aubry. Salut Aubry. Ça fait un moment maintenant que Cannes c'est fini, mais hors de question pour Le Comptoir de ne pas honorer les promesses faites à la direction de cette association. Le studio n'est pas tant que ça en surchauffe post-canicule. On enregistre un lundi soir comme à l'ancienne et la BU n'a toujours pas climatisé la salle philo. C'est parti. Ignac Aubry et moi pour l'épisode du jour, en effet, puisqu'on va évoquer des films de la compétition présentés après le départ de Claire, donc des films de la fin du festival, et on va se poser la question suivante pour le thème de cet épisode. Le cinéma d'histoire a-t-il encore du sens ? Dans le creux d'une sélection officielle et de sections parallèles apparemment très portées sur le contemporain, Cannes 2026 nous a proposé un certain nombre de retours dans le passé, mais un passé borné en dehors du château d'Arioka de Kyoshi Kurosawa au XXe siècle. Paper Tiger, The Man I Love reconstituent les États-Unis des années 80, mais Fatherland, La Bola Negra, que on n'a pas vu, Moulin, La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer, que on n'a pas vu, Notre Salut ou encore Coward sont autant de films qui traitent de la mémoire des guerres européennes du siècle passé, mémoire tantôt non réconciliée et tantôt trop réconciliée, peut-être soit digérée et dépolitisée par la machine du divertissement capitaliste que le 7e art sait parfois être. Et mine de rien, bah ça fait pas mal de films, hein, ceux que j'ai cités, et pas mal de propositions formelles, pas mal de divergences aussi dans le propos, qui nous conduisent à se poser la question légitime qu'il y a, la question légitime du sens qu'il y a à filmer l'histoire, à filmer la guerre en Big 2026. Deux films feront successivement l'objet de nos échanges. On évoquera d'abord Coward, du belge Lucas Dont, qui reconstitue les tranchées de la Première Guerre mondiale, puis Notre Salut d'Emmanuel Mars, sorte de journal filmé d'un petit fonctionnaire de l'État français à Vichy, deux films qui ont été au palmarès du jury de Park Chan-wook le 23 mai dernier, dont l'un à ma grande stupeur, à notre grande stupeur, hein, on peut le dire, mais qui se rejoignent ailleurs aussi, en ce qu'ils suivent des hommes pris malgré eux dans une histoire plus grande qu'eux et abordée par la bande, sans mauvais jeu de mots dans le cas de Coward, soit par des à côté. La Seconde Guerre mondiale et l'occupation telles qu'elles sont vécues par Henri Marre, le protagoniste de Notre Salut, sont limitées à une activité bureaucratique et de management, loin des acteurs de l'histoire et du sang versé. La Première Guerre mondiale est plus sensible dans Coward, qui s'aventure à représenter les tranchées, mais le barycentre du film n'a plus beaucoup à voir dans sa deuxième partie avec ces fameuses tranchées et se déporte sur le couple de jeunes hommes qui sont ses protagonistes et qui cherchent précisément à fuir les combats en question. Ces deux films tentent, dans leur récit, de casser la totalité de l'histoire en racontant des vies minuscules, celles d'hommes dans un cas désireux de s'évader de leurs conditions historiques, Coward, et dans un autre cas, de faire partie de la grande histoire en étant toujours à côté de la plaque, Notre Salut. Par là même, les réalisateurs souhaitent probablement donner à leur film une coloration politique, antimilitariste chez Dont et antifasciste chez Marre. C'est peut-être là le sens fondamental de tout cinéma d'histoire un minimum intéressant. Certains films historiques du Festival de Cannes n'ont malheureusement pas cette ambition politique. Aubry, tu pourras peut-être en reparler. Pour autant, c'est peu de dire qu'un de ces deux films, la Coward ou Notre Salut, manque sérieusement son coup, là où l'autre réussit plus que brillamment. Et donc, sans plus attendre, penchons-nous sur les heures, les malheurs, les erreurs et les profondeurs de Coward et de Notre Salut. On commence donc par Coward, troisième long métrage de Lucas Dont, déjà réalisateur de Girl et de Close, deux films qu'on n'a pas vus, hein, ni toi ni moi, Aubry, si je dis pas n'importe quoi. Après avoir dans ces deux films traité du contemporain des vies queer enfantines, la transidentité dans Girl et l'homosexualité dans Close, il nous plonge ici, le réalisateur, dans une première guerre mondiale non datée précisément, au sein de l'armée belge, ce qui est déjà en soi une source d'intérêt, où l'on arrive en même temps que Pierre dans le wagon qu'il conduit sur le front. Ce jeune homme grand et taiseux est d'abord ce qu'on peut appeler un suiveur, il fait rarement preuve d'initiative et souvent uniquement pour prendre part aux chansons paillardes et aux mouvements de groupe de ses camarades. Par hasard, il fait la connaissance de Francis, un autre jeune homme du campement qui, avec d'autres réformés, monte une revue de cabaret avec l'assentiment de l'état-major qui y voit une façon de remonter le moral des troupes. Au départ assez peu sensible à ce projet auquel il apporte une aide bon gré mal gré, en mettant notamment en place des décors, Pierre y met bientôt de plus en plus de cœur qui se met aussi à balancer de manière caractéristique vers Francis et réciproquement. Le film, qui dans sa première moitié se tenait assez bien, sinon très bien, tenait assez bien, sinon très bien ensemble les représentations traumatisantes des tranchées et la romance gay, vire dans sa deuxième moitié à une bluette pas inspirée et déjà vue avec laquelle j'ai un certain nombre de problèmes, à commencer par le choix que fait Lucas Dont de vouloir à tout prix rendre sexy la Première Guerre mondiale en filmant des acteurs qu'il sait extrêmement beaux, il s'agit quand même de blonds aux yeux bleus, glabres, au corps rasé tout entier, bref, séduisant et surtout formaté pour convenir au marché du désir contemporain, canons qui ne sont pas exactement ceux de ceux qu'on appelait quand même les poilus. Ça a dû aussi convenir au jury de Cannes, qui a récompensé le duo d'acteurs, Emmanuel Macchia, qui joue Pierre et dont c'est le premier rôle, et Valentin Campagne, qui joue Francis, qui les a récompensés du prix d'interprétation masculine, ce qui est sans doute ma plus grosse incompréhension du palmarès. Enfin, s'il fallait récompenser ce film... difficile de le récompenser autrement que par ce prix-là. Aubry, est-ce que tu as mieux compris que le jury que moi ? Et puis indépendamment de ça, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Je pense pas avoir mieux compris le jury que toi, parce que je suis un peu de la même manière étonné par cette récompense, même si, comme tu l'as dit, s'il avait fallu récompenser le film dans l'absolu, c'est celle qui méritait le plus, en tout cas. Et de la même manière, j'avoue que moi, j'ai vraiment pas beaucoup aimé le film. Autant c'est vrai que sa première partie fonctionne plutôt bien, pour la simple et bonne raison qu'elle traite son sujet, à savoir la Première Guerre mondiale. Tout en y faisant monter son histoire de désir homosexuel dans un contexte qui, entre guillemets, ne s'y prête pas vraiment, tout simplement parce que c'est menacé par le reste de la troupe, en fait, et il y a cette tension intéressante qui est créée justement entre le duo qui voit sa romance et son désir grandir petit à petit, et la pression du groupe tout autour, dont ils savent que ça va pas être accepté, etc. Donc il y a cet enjeu-là. Sur fond de Première Guerre mondiale, qui en même temps n'est pas un fond, puisque pour le coup, effectivement, il arrive bien à traiter toute l'horreur des séquences dans les tranchées. Toute la manière dont ça dévitalise les personnages aussi, c'est plutôt bien mené et plutôt bien joué de la part du duo d'acteurs pour au moins leur donner ça et contrebalancer ce que tu as dit justement sur leur apparence sans doute beaucoup trop clean et starifiée par rapport aux personnages qui sont censés interpréter. Mais comme tu l'as dit, dans la deuxième partie, ça s'effondre un peu parce que, et c'est vraiment pas le seul film à être coupable de ce truc-là, mais en fait, le film s'embourbe dans quelque chose de psychologisant et de, comment dire, de sentimental, mais non pas que le sentimentalisme ce soit par défaut un problème, loin de là, simplement, en fait, un des travers du sentimentalisme quand il est psychologisant, c'est en fait d'abstraire les personnages qu'il met en scène de tout contexte, de toute réalité matérielle, et en fait ça fait que au bout de, je sais pas, une heure, un truc comme ça, on finit assez rapidement par avoir un film complètement abstrait, complètement hors sol, ce qui est un peu le comble quand même quand tu fais un film historique qui est loué pour la précision, la justesse de sa reconstitution, etc. Et ça finit par devenir presque une romance gay, enfin elle-même, en fait, même la romance en pâtit, parce que du coup elle devient complètement abstraite, elle a plus vraiment de réalité, et ça devient assez quelconque, quoi. Donc à la fin, on finit par se demander pourquoi faire un film sur la Seconde Guerre mondiale si c'est pour s'en détourner au bout d'une heure, pourquoi faire un film de romance gay qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, la première, pardon, si c'est pour au final, encore une fois, c'est pour le lycée, en faire encore une fois quelque chose d'assez quelconque et finalement bah, pas dire grand chose dessus. Voilà, c'est là que le film est surtout décevant et comment dire, assez oubliable.
Je suis bien d'accord avec toi. Moi, je suis sorti de ce film franchement déçu. Alors, j'avais pas d'attente particulière en allant au festival. C'est un petit peu monté pendant le festival parce que juste en discutant tous les trois avec Claire quand elle était là et qu'elle disait regretter de pas pouvoir y aller, il y avait la grosse affiche en énorme hein, quand même sur le marché du film et l'affiche est chouette. Et puis en plus, pendant le film lui-même, donc moi j'ai vraiment été captivé par la première partie plus que toi, j'ai l'impression. Son traitement, je trouvais notamment que dans la première partie, il y a un traitement du corps militaire comme un système d'effacement de soi, voire de terrain préparant en fait le consentement au fascisme des années qui suivront, fondé sur un ensemble de valeurs masculines, sinon virilistes, qui était assez intéressant ce traitement-là. Il y a un effacement de l'individualité de Pierre, qui est quand même bah, le personnage principal, au moins au début, et une réduction de Francis à une sorte d'élément extérieur désirable et désirable qui me touchait plutôt. Et en fait, ça rend d'autant moins crédible le passage à la deuxième partie où, en gros, l'agentivité dans leur couple est surtout du côté de Pierre, alors que dans les dynamiques de séduction, c'était le rapport inverse. Et surtout, ce qui est un peu pénible, c'est que le film, il est handicapé par un double arrière-plan référentiel qui, en fait, le dépasse largement et rend du même coup son existence un peu vaine. Alors, je reviendrai sur le deuxième plus tard, je pense, dans nos échanges. Mais en fait, ce film, c'est, je trouve, une variation sur une scène de La Grande Illusion de Jean Renoir, qui est un film de 1937 quand même, qui raconte le quotidien de prisonniers de guerre français en Allemagne cherchant à s'évader de leur prison. Et à un moment, dans ce film, il y a un spectacle de cabaret travesti qui introduit dans l'histoire un trouble et quelque chose de très émouvant sur la solitude de ces hommes qui sont loin de leur foyer, etc. etc. Et en fait, la nature chorale de La Grande Illusion, qui est certes centré sur Pierre Fresnay et Jean Gabin, mais qui touche aussi au sentiment des autres en prenant le soin de brosser une galerie de second rôle assez mémorable, ben, cette nature chorale, elle permet de saisir ce qui se joue dans l'instant de grâce, en fait, assez inattendu, qui surgit sur les planches. Alors que, en fait, le problème, c'est dans Coward, les autres soldats sont des espèces de figurants, en fait, oubliables, en somme, et éjectés d'ailleurs de manière fonctionnelle. Il y en a un dont on apprend qu'il est père, et puis, bon, bah, globalement, il incarne à lui seul tout le reste de l'armée, alors que globalement, la Première Guerre mondiale, c'est ça aussi qu'elle a de traumatisant et de marquant et d'atroce, en fait, pour lancer le XXe siècle, c'est sa nature massive, en tout cas dans les combats, beaucoup plus que la Seconde Guerre mondiale. Et donc, dans Coward, et bah, ces soldats sont réduits à vraiment des figurants, voire des silhouettes, alors que bah, dans La Grande Illusion, dans cette scène-là, on est plus avec le public qu'avec les artistes et on voit ce que cette démarche de cabaret, elle crée, l'efficacité qu'elle a sur les personnages et aussi les problèmes qu'elle génère d'une homophobie internalisée ou de sentiments peut-être refoulés. Parce qu'en fait, le Coward, il semble quand même oublier de temps en temps qu'il n'est pas dans un contexte contemporain de plus grande tolérance. Avec des guillemets, et voilà, Renoir, il fait circuler la caméra parmi un public ou un collectif qu'on ne voit jamais dans Coward après la première partie du film, ce qui est d'autant plus frustrant. Et tu parlais d'abstraction du contexte et de côté hors sol, qui est un peu un comble, effectivement, quand on pense que la Première Guerre mondiale, c'est la guerre du sol, si on veut aller par là. Tu parlais d'abstraction du contexte et tout, et en fait, je pense que la dimension individuelle du récit que propose Dont, ça vire à un individualisme qui est peut-être pas le meilleur moyen d'aborder la Première Guerre mondiale, à mon sens. Voilà, l'individualisme marqué de la fin du film, à mon sens, elle va de pair avec une forme mélodramatique dépolitisante et déplaisante qui efface, comme tu disais, absolument l'arrière-plan historique ou bien le réduit à un décor au point de se confondre quasiment avec l'indécence de ces personnages qui dansent sur le charnier.
Ouais, en fait, il y a un peu de ça. Et bon, alors là, je voudrais pas faire un... Comment dire un faux procès à Lucas Dont, parce que comme tu l'as dit, on n'a pas vu ces deux précédents films, mais il me semble, pour en avoir lu des critiques, et pas mal notamment de critiques négatives, que c'est déjà un travers qui pouvait lui être reproché, à savoir de sacrifier son sujet sur l'autel du mélodrame. Voilà. Et voilà, et en gros de se servir de thématiques, en particulier de thématiques queer, pour au final avoir une exécution très maladroite, voire comment dire, contre-productive, enfin, un contresens de ce qu'il voudrait raconter. Et voilà. Et comme tu dis là, surtout par rapport à un film comme La Grande Illusion, qui pour le coup se construit sur une matérialité très forte. Enfin, on compte pas le nombre de scènes et de séquences dans La Grande Illusion où en fait on s'attache à des objets, à du décor, à la manière dont les personnages vivent dans l'espace, à la manière dont ils interagissent avec ce qu'il y a autour d'eux, ou au contraire à la manière dont ils ne peuvent plus faire ça justement parce qu'ils sont prisonniers de guerre. C'est tout ce que Coward manque en fait, en se concentrant sur des choses abstraites, sur le fait que ces personnages se désintéressent de plus en plus du contexte qui les entoure. Ce qui pourrait être un sujet, comme tu l'as dit, autour de la lâcheté, même du côté indécent de leur comportement vis-à-vis de leur, des soldats qui les entourent. Et le film, en fait, le traite pas du tout. Je crois que le seul moment dans la deuxième partie où il y a un bref retour à ce contexte-là, et encore, c'est une perche non saisie, on va dire, c'est une séquence plutôt belle qui se passe dans un hôpital, mais j'en dirai pas plus. Mais voilà, sinon, c'est très lisse. On perd assez vite la guerre, on en perd assez vite même juste la violence, tout simplement. Comme tu l'as dit, le début marche bien sur le... la réification, la déréalisation du personnage, cette perte d'humanité quasiment que pour le coup Emmanuel Macchia joue vraiment bien, je trouve. En fait, il devient très très vite, et ça pareil, c'est un des trucs, des bons trucs qu'on peut reconnaître à Dont sur la première partie du film, c'est qu'en fait il est vraiment mis en scène comme un corps et même plus comme un personnage avant justement que le scénario revienne avec ses grosses bottes pour ramener du sentimentalisme là-dedans. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a une heure où on suit un corps en perdition dans un espace qui devient complètement insignifiant au sens littéral du terme, parce que les paysages lunaires de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça, c'est des espaces dépourvus de repères et dépourvus de sens. De la première, c'est décidément... problème avec cette datation, mais donc voilà, c'est un peu tout le problème du film, et je vais pas non plus m'épancher plus que ça dessus, parce que en fait c'est un peu comme un gros boulet que le film tire, et qu'en fait à force de tirer, le boulet devient de plus en plus gros, voilà. Donc même la fin, je trouve, est assez risible, et en fait on s'en fout pas mal, c'est-à-dire qu'on revient au contexte des personnages, c'est-à-dire en gros d'où ils viennent, savoir de la campagne ou de la bourgeoisie, enfin d'une forme de bourgeoisie artisanale. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est très artificiel comme procédé, qu'on s'en bat un peu les reins, pour le dire franchement. Et ouais, je pense que le plus gros problème du film, c'est son scénario, le fait que la mise en scène s'y inféote pas mal au bout d'une heure, et que du coup, on perd tout le sujet du film, quoi. Et bon... on se rejoint pas mal là-dessus, et je pense que ouais, j'aurais pas beaucoup plus à en dire.
Ouais, en fait, c'est ça, le problème est là. La fin du film, ouais, elle m'énerve pas mal aussi, parce que elle tient vivement à ce qu'on sympathise avec Pierre jusqu'au bout, alors que il devient de plus en plus désagréable. Si bien qu'on en vient en fait effectivement à se demander si le seul but de Dont n'était pas d'être tire-larme, ce que tu lui reprochais, enfin ce que tu as lu qu'on pouvait lui reprocher ailleurs. Et en fait, au vu du talent dont il fait preuve au début du film, j'ai pas vraiment envie de lui pardonner, et pas envie non plus de lui pardonner que il soit très mou en fait, ce film. Il manque de radicalité, il pousse jamais les curseurs du cruel, de l'abject, enfin de la guerre, quoi, parce que c'est quand même ça. Alors il y a une scène de mime où la troupe joue spécifiquement pour l'état-major, qui atteint à cette cruauté vraiment violente, en fait. Il y a quand même une agression qui s'y joue, et qui vient un petit peu souligner toute la normalité de cette situation, mais c'est à peu près tout. Et le film préfère bâtir une espèce d'utopie manquée au sein de la guerre. Et le problème, c'est quand je disais qu'il y avait un autre arrière-plan référentiel incontournable sur la Première Guerre mondiale, et c'est assez terrible que ce film me fasse à ce point avoir des remarques de critique du Figaro entre le reproche de niaiserie et là de convoquer Céline. Mais bon, c'est que Céline, il a posé des marqueurs sur la représentation de la Première Guerre mondiale qui sont dont le film, et le film fait comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire que Voyage au bout de la nuit ou Guerre, c'est des textes qui transpirent la cruauté et la mort, qui disent à quel point c'est un cauchemar, qui en montrent beaucoup. Bardamu, le personnage principal, c'est ça, des cowards, des lâches, des pleutres, dont on arrive néanmoins à comprendre la couardise. C'est-à-dire que là, en reléguant la guerre à un arrière-plan de plus en plus absent, Lucas Dont nous empêche de compatir pleinement avec Pierre, qui nous paraît, je le disais, juste un pauvre égoïste insupportable. Plus généralement, et pour en revenir à Céline, rien dans le film ne perce de la mort partout présente, à part une scène sur le champ de bataille, mais qui sonne presque faux, et une scène dans une infirmerie, celle que tu évoquais, qui essaye d'atteindre à une certaine forme de vanité, sans trop y parvenir, en fait, alors qu'elle a pour elle tous les éléments du carnavalesque. C'est étonnamment, et alors que c'est là que gicle le sang, qu'il y a des gueules cassées, etc., la scène reste trop propre. Les bandages sont d'un blanc trop éclatant. C'est des détails, mais en fait, c'est quand même hyper significatif. Tu sens que c'est des accessoires de film, en fait. Et les déformations des victimes sont à peine montrées, quand bien même il y aurait pu avoir une espèce de contraste assez puissant entre les maquillages les maquillages de la troupe, très très soignés, très très féminisés, vu qu'on est donc sur un spectacle de travesti, et les visages détruits des infirmes. Mais en gros, là où un mec comme Céline pouvait proposer des scènes d'infirmerie sales et crades, le film n'ose pas y aller, il n'ose pas se salir, il n'ose pas salir ses personnages, alors même qu'il traite de la boue des tranchées, et ça, je trouve ça assez pénible.
Mais même en plus, en fait, il y a le parti pris du scénario qui est justement de rester à peu près constamment à l'arrière, c'est-à-dire qu'il y a quelques séquences dans les tranchées, forcément. Mais effectivement, assez vite, en gros, les personnages restent à l'arrière, à la fois donc parce que Pierre rejoint cette troupe de danseurs travestis, et parce qu'en fait, juste, il finit par chercher à tout prix de fuir le front. Pendant tout un moment dans le film, ça se joue autour d'une blessure dont il récupère lentement et dont en fait il rallonge la récupération. Et là, je trouve à la rigueur, ce que le film fait bien, c'est que du coup, en étant fixé à l'arrière du front avec ces personnages-là, en fait, on voit régulièrement les nouvelles vagues de soldats et de jeunes soldats particulièrement qui arrivent, d'abord à l'arrière puis sur le front. Et on les voit depuis ces personnages qui bougent pas. Et là, à la rigueur, je trouve que le film rend plutôt bien cette espèce de position lâche et en tout cas arrive à construire un peu cette ambiguïté entre le refus tout naturel du front et l'abandon des autres, mine de rien. Toutes les spirales administratives et proto-totalitaires qui se jouent déjà à ce moment-là. Mais voilà, le problème, c'est que ça arrive sur la fin de la première heure à peu près. Et comme le reste, le film s'en débarrasse assez vite.
À présent, on va être un peu plus enthousiaste, je crois, pour le deuxième film de ce programme d'histoire. Film cette fois-ci français, et même très français, voire trop, peut-être, pour un jury international, qui a tout de même tenu à le faire figurer au palmarès, d'où il est reparti avec le prix du scénario, ce qui est vraiment pas celui que je l'aurais vu recevoir, voire celui que j'aurais vu le moins recevoir. Bref, on parle de Notre Salut d'Emmanuel Mar, un film qui, à titre personnel, faisait franchement partie de mes attentes de cette édition 2026 du festival et qui a fait du bruit dès sa présentation, du moins dans la critique française, qui s'est empressée de crier unanimement au chef-d'œuvre, à la Palme d'Or même, que ce soit Libération, Les Inrocks ou même Les Cahiers du Cinéma. Ce qui, on l'a dit plusieurs fois et dans d'autres épisodes, ceux qu'on a enregistrés à Cannes sur les pronostics, n'était en fait pas vraiment dans l'ordre du probable qu'il remporte la Palme d'Or, pas tant pour ses qualités intrinsèques que pour la nature internationale du jury. Le film suit donc, au lendemain de la défaite française en 1940, la trajectoire d'Henri Mar, qui est défenseur de l'implantation du management, pour reprendre sa prononciation, du management en France. Il est l'époux de Paulette et père de deux enfants qui sont tous les trois resté en Île-de-France occupé pendant que lui se démène pour trouver une place dans les bureaux et l'administration de Vichy. Henri Mar, il est aussi foncièrement maréchaliste. Il est l'auteur de Notre Salut, un livre paru à l'été 40 que personne n'a lu sur la nature providentielle de la défaite et de l'arrivée au pouvoir de Pétain. Et enfin, Henri Mar, c'est l'arrière-grand-père du réalisateur. Le film tire d'ailleurs une partie de sa puissance, de cette nature archéologico-intime, pourrait-on dire de manière snob, puisque les lettres que s'échangeaient Henri et Paulette sont régulièrement lues en voix off par les deux acteurs qui les incarnent. Swann Harlow d'un côté et Sandrine Blanc de l'autre, révélant une relation singulière où Paulette fait montre d'un certain mépris vis-à-vis d'Henri, qui, quant à lui, se laisse porter par le courant, à la fois mu par des convictions et par une ambition certaine, et en même temps ralenti par sa propre lâcheté. Finalement, on y revient. À la lâcheté. Bien loin des rayons et des ombres de Giannoli, avec lequel la comparaison s'imposera bon gré mal gré, en tout cas dans les remarques que j'aurai à faire, le film suit un homme comme les autres, ni monstrueux ni exceptionnel, simplement tragiquement banal, une approche déspectacularisée de la Seconde Guerre mondiale, assez bienvenue dans le festival, puisqu'elle comptait aussi en compétition Le Moulin de Laszlo Nemes. Tu as vu les deux, toi, Aubry, non ?
Oui, et autant dire qu'il y a un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, un autre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aimé, je vous laisserai deviner lequel. Non, blague mise à part, j'ai énormément apprécié Notre Salut, beaucoup moins Moulin, tout simplement parce qu'en fait je trouve qu'il y en a un qui traite vraiment de son sujet et qui surtout le traite politiquement. En fait, il y en a un en fait, qui ne fait pas un film sur la Seconde Guerre mondiale pour faire un film sur la Seconde Guerre mondiale, qui entre guillemets a pleinement quelque chose à en dire en 2026, avec une approche à la fois comment dire, formelle et méthodique complètement étonnante pour Notre Salut, du coup, là où l'autre, un peu à la manière du Lucas Dont, s'enferme dans un certain classicisme à certains endroits, ou en tout cas se dépolitise complètement. Pour parler brièvement de Moulin, du coup, avant qu'on embraye sur Notre Salut, en fait j'ai un reproche assez similaire à celui que j'avais pour Coward, c'est le reproche de l'abstraction. C'est-à-dire que en fait Moulin, c'est un film qui se passe, enfin en gros qui se concentre sur les derniers jours de Jean Moulin, à savoir le moment où il revient en France et plus précisément où il gagne Lyon avant de se faire, enfin pour continuer d'unir les différents mouvements de la résistance, juste avant de se faire capturer par les troupes de Klaus Barbie et de subir un long interrogatoire, notamment dans les prisons lyonnaises. À Saint-Luc, notamment. Montluc, oui. Et en fait, le problème de ce film-là, c'est qu'en fait, il s'appelle Moulin et qu'il se concentre sur un duel Jean Moulin, Klaus Barbie, en faisant abstraction de tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que c'est assez étonnant, parce que du coup, Laszlo Nemes, il fait de ce film-là un espèce de film de genre. J'ai lu ou entendu, je ne sais plus, dans d'autres critiques, que ça avait un côté presque film d'horreur, où on a un personnage principal qui est traqué par d'abord des ombres, puis un espèce de monstre en la personne de Klaus Barbie, avant de se faire torturer. Et pour le coup, là, c'est pas vraiment lisse, mais je veux dire, pour le coup, on voit de la violence à l'écran. On n'est pas épargné là-dessus, le film est plutôt dur, mais en revanche, en fait, il se concentre sur ce duel-là comme si tout se jouait au niveau de deux personnages qui, en l'occurrence, sont des personnes réelles, faut le rappeler. Et cette interprétation-là, elle est quand même sacrément contestable, notamment quand, de la même manière que pour le film de Lucas Dont, on a un arrière-plan à la fois historique et cinématographique, et en l'occurrence, L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres, c'est un film qui, à mon sens en tout cas, avait compris son sujet en ce qu'il le traitait de façon très collective, c'est-à-dire que même si on était quand même centré autour de Lino Ventura et Simone Signoret, c'est un film quasi anonyme au niveau de ses personnages, très horizontal dans un sens, très perdu aussi, là où Moulin, c'est un film qui file tout droit, qui est dans un espèce de couloir, qui suit cette espèce de duel de chasse à l'homme en fait entre Klaus Barbie et Jean Moulin et qui joue dessus de façon assez malvenue, parce que surtout en plus pour un réalisateur comme Nemes qui a été assez vite adoubé par Claude Lanzmann et une partie de la critique pour Le Fils de Saul qu'il avait réalisé en 2015, pour lequel il avait été primé à Cannes et qui avait été un peu brandi comme une des bonnes manières de représenter, en l'occurrence, la Shoah au cinéma, avec un dispositif très fort et très esthétisant, qui n'est pas exempt de tout reproche non plus d'ailleurs, mais qui avait été désigné comme, en gros, l'inverse de ce que faisait Spielberg dans La Liste de Schindler. C'est un peu con, du coup, que dans un film comme Moulin, à force en fait de lorgner vers le genre, Nemesh il en soit, réduit à faire ce pourquoi, enfin le contraire de ce pourquoi on le louait. Non pas que je sois d'accord avec ça, mais bref. Mais du coup, c'est un film très inégal, même si c'est porté par une très bonne performance de Gilles Lelouch, on peut quand même le souligner. C'est très très bien réalisé, c'est très très beau comme film, mais justement, c'est un peu sa limite aussi, parce que bah, à force d'esthétiser, de vouloir faire en fait de ce sujet un film de genre, bah, le film il sort un peu de ses limites et finalement il oublie l'histoire qu'il veut raconter, il oublie la dimension collective de l'histoire qu'il veut raconter et il s'embourbe dans des procédés d'abstraction qui en fait rendent ça assez quelconque et qui font que le film est sinon un brin réactionnaire, vraiment pas du tout aussi antifasciste qu'on voudrait nous le faire croire, ce qui est quand même un peu un comble aussi quand on fait un film sur Jean Moulin, comme quoi les déclarations en conférence de presse c'est pas éloigné, enfin pas si éloigné que ça du film qui est fait à côté, donc voilà, c'est un film qui est loin d'être sans qualité, pour moi c'est ne serait-ce qu'un, enfin c'est un bien meilleur film que Coward par exemple. Ça se suit vraiment bien, comme je dis c'est assez dur et tout. Après voilà, surtout en comparaison du film dont on va parler maintenant, je trouve ça très très vide, et ce qui est juste en fait un peu inexcusable quand on fait un film sur ce sujet là mais voilà, je te laisse rembrayer sur notre salut.
Merci beaucoup. Et effectivement, donc pour parler de notre salut, pour le coup, moi j'ai été convaincu par son anticlassicisme revendiqué, ce qui est donc tout à fait différent de l'approche de la Sonémès telle que tu l'as décrite. Enfin, on aborde de la Seconde Guerre mondiale selon des codes autres que ceux par lesquels on a l'habitude de la voir représentée à l'écran encore et encore et encore. Là, on a une caméra à l'épaule, des plans mal cadrés, des cuts brutaux, un langage et une prononciation qui sont proches des nôtres, un éclairage visible de spots lumineux qui donne souvent au film le côté photo de soirée prise avec un flash. Alors qu'ils sont pas censés être là, exactement. On est à ça de l'eye contact quasiment avec la caméra. Le film aussi est très fort parce qu'il fait le pari assez réussi de représenter presque aucun Allemand et de se concentrer sur la nature très française de ce qui se passe, en dehors d'une scène en extérieur qui est très brillante. Et le film, il veut parler du contemporain, mais il le fait sur un plan assez inédit. Il ne s'agit pas là d'enjeux bornés de politique, mais de la mise au jour de structures plus profondes et qui, pour le coup, n'ont pas cessé avec Vichy. Le management d'Henri Marx, c'est rigoureusement le même management aujourd'hui. On sent d'ailleurs que le réal, il a dû lire le bouquin de Chapoutot, de Johan Chapoutot, Libre d'obéir. La scène dans l'entretien d'embauche des dactylos, notamment, dans Notre Salut, c'est du LinkedIn dans le texte, hein, globalement, et idem pour la scène de commentaires des graphiques. Et ça marche trop bien, en même temps que ça peut avoir un côté peut-être un peu monotone et pas extrêmement dynamique, ça je l'entends, mais je crois que j'aime autant ça que la grandiloquence vide et extrêmement classique, pour le coup, des rayons et les ombres de Xavier Giannoli, qui était le premier reproche que j'avais à lui faire. Parce que justement, dans Notre Salut, rien n'est vain, il n'y a rien de vulgaire, rien de putassier. Après, peut-être que s'il fallait que j'identifie une limite à Notre Salut, c'est que son dispositif finit par devenir un peu trop une fin en soi et n'évolue pas vraiment. Mais c'est aussi vrai que j'ai un peu dormi par intermittence sur les 40 dernières minutes d'un film qui dure 2h30. Donc je peux peut-être pas me prononcer intégralement sur les fins, dans tous les sens du terme, du dispositif mis en place par Emmanuel Mar.
Ouais, moi j'avoue que je suis un peu plus emballé encore, je pense. En vrai, je me demande si c'est pas le meilleur film ou un des quelques meilleurs films que j'ai vu du festival. Ça m'a beaucoup impressionné. Et même en vrai, étonnamment, parce que c'est un dispositif qui est très... Enfin, comme tu l'as dit, qui met beaucoup de distance, qui, tout au contraire de Moulin, par exemple, en fait, se veut très peu directement immersif. Enfin, disons qu'il, lui, se veut, Notre Salut, ça se veut plus immersif par ce côté suite de scénettes, reconstitution détaillée, échange de lettres, etc. Et moins par... par des procédés directs de mise en scène qui, comme tu l'as dit, ont plutôt tendance à faire sortir du film volontairement. Sauf qu'en fait, je trouve que le film réussit complètement son pari assez fou là-dedans. C'est de nous faire suivre ce mec, donc ce fonctionnaire de Vichy, qui est en gros un espèce d'ego blessé qui cherche à se refaire une place à tout prix, qui se vend à peu près à tout le monde. Et en fait, ce personnage qui, a priori, est quand même assez méprisable, détestable et très pathétique, bah justement, il est pathétique. Et en fait, on finit par se prendre de pitié quelques scènes pour lui. Il y a une forme d'ambiguïté qui est construite là-dedans, qui permet aussi de se dégager d'une forme de caricature et de linéarité. Non pas qu'il faudrait nuancer ou excuser les fonctionnaires de Vichy, mais plutôt qu'en fait... Disons que cette nuance-là, elle permet, enfin la nuance qu'a le film, elle permet, comme j'ai dit, une espèce de distance qui permet de voir plus seulement juste l'ego blessé qui se priorise avant tout le reste, mais de voir surtout un mec assez lambda pris dans la machine, ce qui au final est quand même pas mal le sujet du fascisme, enfin des fascismes des années 30 et 40. Et ça, je trouve que le film le rend assez bien. Pareil, tu l'as dit, dans ces anachronismes qui participent aussi de cette mise à distance, ça a beaucoup été dit que le film est presque tourné comme un très long épisode de The Office qui se passe dans les bureaux de l'administration vichyste. C'est pas faux. D'ailleurs, il y a pas mal d'éléments un peu comiques. Il y a une séquence très forte et très étonnante au milieu du film que je spoilerai pas, mais où il y a un morceau de pop rock bien années 80, bien punchy, qui est utilisé sur des images d'archives, qui est une séquence assez dingue. Il y a cette manière de faire un film purement historique qui, on va dire, dans son récit ou quoi, ne sort pas de cet échange de lettres et donc de la temporalité qu'il a. Et pourtant, bah en fait, de parler d'aujourd'hui aussi, en faisant parler les fonctionnaires de Vichy et les gens qui gravitent autour du personnage de Swann Harlow comme des macronistes ou des gens de droite d'aujourd'hui. Enfin bref, c'est très étonnant comme film, c'est très fort, c'est effectivement assez assez étonnant. Je pense qu'on peut s'en détacher aussi assez vite, mais je trouve que si on est pris dedans, c'est de plus en plus fort au fur et à mesure que ça se déploie. Et au contraire, je trouve que le dispositif du film, qui effectivement en fait reste le même pendant 2h30, je trouve qu'au contraire de s'essouffler sur la fin et sur la longueur, il gagne en puissance et étonnamment en émotion au fur et à mesure que ça avance jusqu'à la fin.
Oui, en gros, la force du film, c'est la force du télescopage en gros anachronique, c'est-à-dire que l'histoire, voilà. On parlait du cinéma d'histoire, du sens qu'il peut avoir et du sens qu'il n'a pas chez Lucas Donte. Là, l'histoire cesse d'être une toile de fond dépourvue de puissance parce que par une série d'anachronismes assez créateurs, le film parvient à parler de notre contemporain de manière subtile. On a parlé de la forme, mais voilà, le traitement de l'archive aussi, qu'elle soit personnelle ou collective, est très bien vu. Le film fait quasiment de la recherche-création en remontant à la fois donc ses lettres personnelles, comme le fait Adèle Yon dans Mon vrai nom est Elisabeth, par exemple, une comparaison qui se tient à plein d'égards, je crois, et notamment sur la période des lettres abordées. Donc il intercale ça, et puis des archives de la visite de Pétain à Limoges, de manière extrêmement dynamique, en complet décalage avec le traitement habituel du sujet, et rend ces archives-là publiques, entre guillemets, étrangement vivantes de ce fait. Alors on va pas dévoiler toute cette séquence, et notamment pas le titre choisi, etc., parce qu'il faut en garder la surprise, mais voilà, il fait quelque chose de vraiment très bon, en s'autorisant d'ailleurs aussi le film, en choisissant ses archives, à noyer son personnage, son arrière-grand-père, dans la foule venue acclamer le maréchal, et à en effacer pour le coup l'individualité au sein de la masse fasciste. Et discrètement, cet intercalage d'images d'archives rappelle effectivement la présence de l'histoire dans un film d'histoire comme point de repère et d'ancrage dont beaucoup d'autres films s'éloignent volontiers pour se satisfaire de leur scénario, de leur mise en scène, etc. Comme dans Buongiorno Notte de Marco Bellocchio, auquel je l'avais comparé dans l'émission des pronostics pour suggérer qu'il ne serait pas récompensé de prix importants par le jury, l'usage détourné de l'archive agrégée à des musiques qu'on ne s'attendrait pas à entendre dans un drame historique est aussi une manière de s'adresser aux spectateurs, ou à la spectatrice. Chose rare dans les films de cette sélection officielle qui fonctionnent et qui fonctionnaient souvent comme de beaux objets, y compris ceux qu'on aimait bien, mais souvent clos sur eux-mêmes et assez peu tournés vers l'extérieur de l'écran.
Ouais, complètement, et surtout dans la distance qui est créée avec ce qui est montré et les appels aux spectateurs et spectatrices. Surtout, moi, ce que je trouve intéressant par rapport aux autres films de la compétition et surtout aux deux films dont on a parlé avant celui-là, c'est qu'étonnamment, c'est un film très psychologique. J'ai devant moi là un entretien avec Emmanuel Marre sur le site du Festival de Cannes où quelqu'un lui pose cette question. C'est quand même assez psychologique le film, et lui répond bah oui, parce qu'en fait moi ça m'intéressait aussi de voir comment les régimes fascistes profitaient des névroses individuelles des gens de l'époque pour mieux les embourber dans les engrenages du système, et c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est un film très psychologique mais qui ne s'embourbe jamais dans une quelconque abstraction ou une quelconque déréalisation de ce qui est montré ou des événements qui sont montrés. Et même au contraire, ce que ne faisaient ni Coward, ni Moulin, ni beaucoup d'autres films en vrai, là, Emmanuel Marre, il se concentre sur plein de petits gestes. En fait, toutes les scénettes qu'on voit, elles ont un côté très anecdotique. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, en fait, tout le gros de la Seconde Guerre mondiale qui, en vérité, est tout ce qu'on voit dans les films sur la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre, les combats, la résistance, la violence, juste tout ce qui est spectaculaire dans la Seconde Guerre mondiale, ça ici ça reste hors champ. On n'a que des trucs anecdotiques, des gens qui discutent dans des bureaux, un mec qui fait des allers-retours en fait entre Paris, Limoges notamment. Sans qu'il ne se passe jamais rien, et c'est d'ailleurs le sujet du film, la grande majorité des lettres, c'est lui qui en gros brasse du vide pour faire croire à sa femme que tout est ok, et sa femme qui lui répond en tirant à boulet rouge pour lui dire tu te foutrais pas un peu de ma gueule, on n'a plus d'argent, t'as encore rien branlé le mois dernier, et nous on commence à avoir froid pendant que toi tu t'acoquines avec les gens du ministère. Et c'est là qu'en fait le film est intéressant, c'est que du coup il prend la psychologie de son personnage par l'angle de l'anecdote et donc de tous les petits gestes, de tous les petits moments où entre guillemets il ne se passe rien, et en fait en se concentrant sur tous ces trucs là, sur effectivement des échanges hiérarchiques avec les gens qui sont placés sous son autorité à Limoges, dans le cadre du fonctionnaire, de l'administration vichiste. Mais même à l'inverse, dans tous les échanges que lui, il a avec ses supérieurs hiérarchiques, et où il apparaît de façon très claire comme un pion, et même lui en est conscient quelque part, y a une manière de raconter la psychologie du personnage par toute une série de petits détails très concrets, très matériels aussi, qui pour le coup font la force du film, je trouve. Et aussi le raccroche à quelque chose de contemporain, d'immédiatement compréhensible, ou en tout cas qui prête immédiatement à réflexion, même dans la manière dont c'est montré. Donc, pour ça aussi, je trouve que le film est très étonnant, surtout par rapport à ceux qui l'accompagnent dans la sélection, même juste sur la fin du festival en termes de timeline, quoi. Et il s'en sort très bien, je le trouve très juste, et même aussi juste très basiquement dans la manière dont il est interprété, c'est-à-dire que le choix de confier à Swann Harlow ce rôle de personnage lâche et méprisable, c'est mine de rien assez efficace, parce que on va pas se mentir, Swann Harlow, aka le plus bel homme du monde, est quand même très magnétique, et du coup il y a vraiment ce truc étonnant d'attraction-répulsion entre un personnage dont on sent par moments qu'on aimerait le prendre en pitié ou qu'on aimerait un peu l'accompagner, dans le même geste en fait on se dit mais vraiment pas quoi, c'est vraiment le plus sombre connard possible, et en même temps on se dit c'est un pélo qui est complètement bouffé même psychologiquement justement par le système dans lequel il est pris, et le système du coup que le film donne à voir en creux. Bref, pour toutes ces raisons, c'est complètement passionnant, assez sidérant. Et je peux que recommander à nos auditeurices de foncer voir le film, soit en reprise là, dans les premiers jours de juin, que ce soit à Paris ou à Lyon, en l'occurrence au Comédia et dans les cinémas Lumière, ou alors à sa sortie en septembre. Mais voilà, notre salut. J'avoue que moi, je rejoins un peu le dithyrambisme de la critique française.
Merci beaucoup. Et puis pour vous parlerez sans doute plus largement du film quand il sortira donc le 30 septembre dans la saison 4 du Comptoir du cinéma. Mais pour terminer là-dessus, voilà, moi ce qui m'a intéressé aussi vraiment dans le film, là on a pas mal parlé de ses intentions et tout, mais c'est aussi et de certains choix de mise en scène qu'il a fait. Mais j'aime pas mal dans son scénario qui donc a été récompensé la façon dont on reste en permanence dans les marges de l'histoire, puisqu'on parlait du cinéma d'histoire. Il y a une scène avec Pétain et elle est très drôle parce qu'en fait elle est ratée. Et elle est manquée, et que Henri Marc, qui attend ça avec impatience, qui est vraiment sincèrement maréchaliste, et il n'y en a pas tant que ça finalement à Vichy, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunistes en fait, lui il attend ça avec impatience, et ça marche juste pas parce qu'on le met à la porte, et il n'a pas d'interaction avec Pétain, il n'a pas d'interaction avec l'histoire, et ça, bah, c'est assez fort justement de montrer que... Il n'y a pas besoin d'être, comme le faisait Giannoli, avec Otto Abetz, avec Hitler quasiment pour être une ordure en fait, hein, ou pour avoir ne pas avoir le sens de l'histoire en tout cas, et ça c'est assez beau, et même et ça se ressent aussi dans la façon dont le film est spatialisé, puisque la forme choisie du film que choisit le film, elle a aussi un impact autrement que simplement historique ou éthique, ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. C'est-à-dire que de fait le film fait le choix d'une caméra très rapprochée des visages, des corps, on l'a dit, souvent porté, voilà, mais rarement du plan large. En fait, c'est difficile pendant longtemps de se figurer exactement les étages, les bureaux, les immeubles qu'on traverse ou dont on voit les portes, les fenêtres. C'est quasiment des backrooms par moment. C'est à la mesure où le film est particulièrement claustrophobe et donc il évite ce plan large pour enferrer le spectateur et la spectatrice au maximum dans le système étouffant de la bureaucratie, jusqu'à une dernière scène vraiment extrêmement forte où j'étais réveillé, scène de projection dans l'avenir, magnifique, qui tend vers d'autres travaux d'Emmanuel Marre, que j'en profite pour recommander ici en conseil de fin d'émission, voilà, qui est le film de l'été, qui est un film qu'il a fait, un court métrage qu'il a fait et qui est disponible en ce moment sur Mubi, donc pour les gens qui l'ont vraiment, voyez-le, et je pense que ça éclaire assez lumineusement cette dernière scène de notre salut, qui est une projection dans l'avenir, qui aurait pu m'émouvoir plus, sans doute, encore une fois, qui m'a touché, mais qui aurait pu m'émouvoir plus si, à nouveau, je n'avais pas manqué l'effet de la montée en tension qui la précède en m'assoupissant plusieurs fois, non pas à cause du film, à nouveau, mais bien parce que c'était l'avant-dernière journée à Cannes. Sur ces belles paroles, c'est la fin de ce 11e épisode du Comptoir du Festival. Merci Aubry, merci beaucoup à Smila, Élise et Corentin qui nous ont permis pour Transistor de couvrir et d'assister à ce festival. Merci à vous, auditeurs et auditrices. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du Comptoir du Festival où on parlera enfin de la Palme d'Or et dans la foulée du Grand Prix avec Claire, cette fois-ci. Restez donc branchés Transistor car ce sera bien évidemment disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et partagez-nous. Vive le cinéma et vive Transistor.